Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Les surveillants de prison française sont en grève dure depuis 10 jours maintenant. Une vaste mobilisation déclenchée après l'agression de 3 d'entre eux par un détenu djihadiste à Vendin-le-Vieil, dans le nord du pays. Les 28 000 gardiens réclament plus de sécurité, des effectifs supplémentaires et une amélioration des conditions de vie dans ces établissements. Ce malaise dans les prisons est partagé par plusieurs pays européens. En 2015, 9 pays étaient en surpopulation carcérale, dont la Hongrie, l'Italie et la Belgique. Les gardiens belges qui menacent aussi de débrayer comme en France. Laxmi Lotha nous appelle de Bruxelles.
Une nouvelle grève des gardiens de prison est prévue lundi prochain en Belgique si aucun accord n'est trouvé d'ici là avec le ministère de la Justice. Les syndicats ont prévu un calendrier de contestation. Les agents vont dans un premier temps prendre leur service avec 2 heures de retard. Ensuite, ils feront une grève de 24 heures le 2 février, puis à nouveau le 9 février. En cause, le manque de personnel dans les prisons. Le problème, ce sont les détenus en attente de procès dans des maisons d'arrêt surpeuplées, comme la prison de Saint-Gilles ou Lantin. En 2016, un mouvement de grève avait déjà eu lieu dans le pays. Il avait duré près de 2 mois, avec pour conséquence des détenus privés de douches quotidiennes, de sorties, de visites. L'État belge a été condamné pour cela en 2017 à verser des indemnités à des prisonniers qui avaient porté plainte pour mauvais traitement. 250 euros par jour avec un plafond de 5000 euros par détenu. Des rapports du Conseil de l'Europe, de la Ligue des droits de l'homme et de l'Observatoire européen des prisons pointent régulièrement du doigt la situation dans les établissements pénitentiaires belges. Pour faire face à la surpopulation carcérale, la Belgique a loué des cellules à ses voisins pendant des années, les Pays-Bas, qui ont au contraire été obligés de fermer des prisons par manque de détenus.
Ils sont chauffeurs routiers, cuisiniers, soudeurs ou encore maçons. En l'espace d'un an, le nombre de permis de travail attribués aux Ukrainiens a doublé en Lituanie. Il est passé de 10 000 à 20 000. Une aubaine pour le marché du travail local en panne de main-d'œuvre et qui les emploie bien volontiers, mais tout n'est pas rose pour autant. Les travailleurs ukrainiens sont aussi victimes de fraudes ou du marché noir. Reportage en Lituanie de Marielle Bituro.
Depuis quelques semaines, Oleg, un Ukrainien de la région d'Ivano-Frankivsk, habite en Lituanie. La messe du dimanche dans la petite église gréco-catholique de Vilnius est un rituel pour s'intégrer dans son nouveau pays.
Je viens d'Ukraine et je veux ouvrir ma société de construction ici en Lituanie. Aujourd'hui, mon pays n'a pas d'argent et il est impossible de faire des bénéfices. Pour un entrepreneur, la vie est donc impossible.
En l'espace d'un an, la Lituanie a accueilli 2 fois plus de travailleurs ukrainiens qu'en 2016. Une situation qui n'étonne pas Denis Kretov, à la tête d'une société de recrutement créée il y a tout juste 3 ans.
Ce qui attire les Ukrainiens, ce sont tout d'abord les salaires et ensuite les conditions de travail plus décentes offertes par les employeurs lituaniens. Certains envisagent aussi la possibilité de rester en Lituanie pour travailler dans l'Union européenne. Nous faisons face à un flux grandissant d'Ukrainiens voulant travailler à l'étranger.
Une aubaine pour le pays balte, car la main-d'œuvre ukrainienne permet de résoudre les tensions sur le marché du travail. C'est ce que relève Alexandre Izgorodin, économiste pour la Confédération des industriels.
Aujourd'hui, l'économie lituanienne est dos au mur. Nos exportations s'envolent depuis plusieurs mois et la bonne santé de notre économie en dépend totalement. Mais d'un autre côté, les employeurs ne trouvent plus de main-d'œuvre. Le marché du travail s'est rétréci pour 2 raisons. La forte émigration et la chute de la population active causée par la baisse de la natalité.
Les 26 poids lourds de Sergueï Roussak font des allers-retours entre la Lituanie et l'Italie. Il emploie 5 chauffeurs ukrainiens qu'il affirme payer le même salaire que les Lituaniens et il n'y voit que des avantages.
Les chauffeurs lituaniens veulent passer du temps chez eux entre les missions. Alors forcément, le véhicule est immobilisé et les bénéfices diminuent. C'est pour cela que nous préférons les Ukrainiens. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Ils ne s'arrêtent que le temps légal. Avec eux, nous augmentons notre chiffre d'affaires plus qu'avec leurs collègues lituaniens.
Daria Olefirenko virevolte sur la scène de l'Opéra de Vilnius depuis 5 ans. La Lituanie accueille des ouvriers, mais aussi de nombreux entrepreneurs, start-upers ou étudiants. Cette danseuse ukrainienne est arrivée, elle, il y a quelques mois avant le début de la révolution ukrainienne. Elle est venue tenter sa chance en Europe. Mais aujourd'hui, rentrer et se produire à Kiev relève pour elle de l'impossible.
Quel est mon intérêt de rentrer pour percevoir un salaire plus faible, comme tout le monde en Ukraine? J'ai un bon niveau professionnel. Je peux donc travailler pour une bonne compagnie de danse avec à la clé un meilleur salaire. La moitié de mes camarades d'études est partie, elle aussi, à l'étranger.
Mais la situation est loin d'être aussi idyllique pour tous les émigrés ukrainiens, notamment pour la main-d'œuvre peu qualifiée. Les employeurs sont loin d'être tous à cheval sur le règlement. En 2017, près de 70% des cas de travail au noir concernaient des Ukrainiens, selon les chiffres de l'inspection du travail. Pour minimiser les risques, l'organisme informe désormais en ukrainien. Il est aussi secondé par des ONG. Kristina Micheniene de Kobji tresse un portrait sombre des abus.
Nous constatons que certaines agences de recrutement demandent beaucoup d'argent à leurs clients sans pour autant se soucier de là où ils sont envoyés travailler. Nous avons dû aider des Ukrainiens sur les chantiers navals ou du bâtiment. Ils ont travaillé de longs mois sans recevoir de salaire, en espérant toujours qu'ils finissent par être versés. Il a fallu les aider pour tout, leur acheter des affaires de toilette, des habits chauds.
Les présidents ukrainiens et lituaniens ont discuté fin décembre de ces dérives. Un accord de sécurité sociale bilatérale doit être prochainement conclu entre les deux pays pour plus de protection. Et il s'avère nécessaire. Le nombre de travailleurs ukrainiens devrait encore augmenter cette année, d'autant plus que les employeurs demandent des procédures simplifiées pour les embaucher.
Comme dans nombre de pays européens, il devient difficile en Finlande de trouver un médecin ou un hôpital dans les régions victimes d'exode rural. En Carélie, près de la frontière russe, plusieurs municipalités ont donc décidé de mutualiser leurs moyens et grâce aux fonds de l'Union européenne, ce sont désormais les centres de soins qui se déplacent vers les patients. Exemple avec ce bus médical, Mallu, qui effectue plusieurs fois par semaine une tournée dans les villages. Reportage Laurent Berthaud.
Lapendranta, 5h45 du matin. Jorma démarre son bus. À ses côtés, l'infirmière Lena. Ils entament une tournée de 440 km sur les routes enneigées de la Carélie du Sud. 8h30, arrivée dans un bourg de la région de Parikkala, à quelques kilomètres de la Russie. Jorma a garé son bus devant la bibliothèque. Il déroule un long câble et raccorde son véhicule à l'électricité. Puis, en quelques minutes, il assemble le marchepied qui va permettre aux patients de monter sans peine à bord du bus médical. À l'intérieur, Léna a allumé son ordinateur, relié à Internet, et a préparé tout le matériel nécessaire pour accueillir ses patients.
Mes patients ont des troubles du rythme cardiaque, la fibrillation auriculaire, pour lesquels il y a un traitement bien spécifique. Je dois prélever des échantillons de sang, lire le résultat, ce qui me permet d'adapter le traitement.
Avec cet ordinateur, vous pouvez accéder au dossier médical de chaque patient?
Oui, j'ai une liste de toutes les personnes que je dois rencontrer aujourd'hui, 17 au total. Je peux voir tous les examens médicaux déjà réalisés, tous leurs dossiers. J'ai juste à cliquer là, sur leur nom. Et dès que j'ai le résultat du test sanguin, je le note là, sur la fiche numérique.
Première patiente à monter dans le bus, une vieille dame venue avec son déambulateur.
Je viens car je prends un traitement au Marevan pour mon cœur. J'ai des problèmes cardiaques.
Qu'est-ce que vous pensez du service Mallu?
Avant, ici, nous avions un centre de santé. J'aurais bien aimé qu'il reste ouvert. Mais bon, on s'est habitué au bus. Le service est bien. J'en suis satisfaite.
Et vous habitez loin d'ici?
Non, j'ai juste la route à traverser.
Une demi-heure plus tard, c'est au tour de Pekko, un vieux monsieur, de gravir le marchepied. Lui est venu en voiture.
Rien à dire, c'est vraiment un bon service. Je l'apprécie beaucoup. Avant, je devais faire 50 km en voiture pour venir aux consultations. C'est bien mieux comme ça.
Le test sanguin se révèle bon, tout comme l'électrocardiogramme que fait passer Léna. L'infirmière en profite pour ausculter Pekko et vérifier son souffle. Pecco ressort satisfait du bus et se dirige vers la supérette, distante de quelques mètres. Désormais, le passage du bus Malou tous les 15 jours rythme la vie de la communauté qui se croise tout naturellement dans le rayon du petit supermarché, pour le plus grand plaisir de la jeune caissière Iris.
Malou, je trouve que c'est super. Ici, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent plus se rendre en ville pour aller dans les centres de santé. Et comme elles n'ont pas de voiture ou qu'elles ne peuvent plus conduire, eh bien c'est le bus Malou qui vient jusqu'à elles. Et c'est bien aussi pour notre magasin. Les gens qui viennent consulter en profitent pour venir boire un café et faire quelques courses. Ils peuvent aussi rencontrer leurs voisins, leurs amis, les gens du coin qui viennent d'assez loin parfois. Ici, c'est un peu le living room du village.
Retour à La Pendranta, au pied de l'hôpital. Un autre bus nous attend. Celui-ci s'appelle Mala, un bus laboratoire. Katri vient de terminer sa tournée du jour.
Je me rends dans 4 lieux différents, à 40-50 km d'ici, et à chaque fois, il y a une quarantaine de rendez-vous programmés par jour. J'effectue les prélèvements sanguins, je récolte des échantillons d'urine, je procède aussi à des frottis gynécologiques.
Est-ce que c'est très différent de travailler dans ce bus et à l'hôpital ?
Eh bien là, je suis autonome, j'ai plus de temps pour les gens aussi. Je passe une dizaine de minutes par personne. On peut discuter, prendre des nouvelles, savoir ce qui va moins bien. Au besoin, on peut les aider. Quand on a affaire à des personnes âgées, elles sont souvent seules et ce contact leur fait du bien. Ça fait aussi partie des soins.
Que ce soit pour effectuer des prélèvements médicaux, suivre les patients malades du cœur ou même dispenser des soins dentaires, les bus accueillent surtout des personnes âgées, à l'image de la population vieillissante qui vit dans les campagnes finlandaises, victime de l'exode rural. C'était surtout à cette génération que les 9 municipalités de ces régions reculées ont pensé quand elles ont mis en place toute une palette de services itinérants en 2010. Tuula Karpula, responsable du service de santé de Carélie du Sud.
Le but était vraiment de proposer ces services dans les régions qui en étaient dépourvues. Par exemple, nous effectuons chaque année une campagne de vaccination contre la grippe qui touche particulièrement les personnes âgées. Avec les bus itinérants, nous avons pu vacciner plus de personnes qu'auparavant. C'était l'une des raisons. L'autre étant bien sûr que les patients puissent bénéficier des soins d'une infirmière quand ils en ont besoin, infirmière qui peut les mettre en relation avec un médecin si nécessaire. Il y a les bus, mais aussi 2 voitures d'intervention d'urgence prêtes à se rendre chez n'importe quel patient sur simple appel téléphonique. Ce sont des infirmières qui s'y rendent. Une fois chez le patient, elles peuvent au besoin communiquer avec un médecin.
Développer les soins itinérants, favoriser également les soins à domicile, sans jamais mettre la vie des patients en danger, c'est toute l'ambition de ce programme mené par Exoté. Le district de soins médicaux et sociaux de la Carélie du Sud a même mis en place des soins palliatifs à domicile.
Beaucoup de gens préfèrent mourir chez eux, s'ils le peuvent. Nous avons donc développé un système de soins palliatifs à la maison. Bien sûr, si ces gens ont besoin d'avoir un lit à l'hôpital, il y a des lits dédiés à ça. Donc ils peuvent rester chez eux tout en sachant qu'au besoin, ils seront immédiatement pris en charge à l'hôpital.
Le développement des services à domicile a permis aux municipalités de fermer plusieurs centres de santé qui ne recevaient plus assez de patients et qui coûtaient trop cher. Le district a pu également réduire le nombre de lits à l'hôpital de La Pendranta, passant de 2000 à 1500 en 7 ans. Le développement de soins itinérants a permis de réduire les coûts de près de 3%. C'était toute l'ambition de ce plan, alors que les municipalités disposent de revenus toujours moins importants.
C'est la 3e année consécutive que les naissances sont en baisse en France. L'INSEE a annoncé la semaine dernière que le taux de fécondité était descendu à 1,88 enfants par femme en 2017 contre 2,01 en 2014, ce qui est le seuil de renouvellement de la population. Il faut remonter aux années 90 pour trouver des taux inférieurs. Est-ce la fin de l'exception française ? L'Hexagone reste malgré tout avec l'Irlande parmi les pays les plus féconds d'Europe. Alors avec Daniel Vigneron, nous allons faire un panorama démographique de l'Union. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Daniel, la France est-elle en train de perdre son rang de champion de la démographie européenne ?
Rappelons d'abord, Catherine, que la croissance démographique d'un pays résulte certes d'un nombre supérieur de naissances au nombre de décès, ce que l'on appelle l'accroissement naturel de la population. Mais la démographie est également fonction des mouvements de population et du solde migratoire. Nous verrons que ce facteur est déterminant en Europe.
Et si on évoque le taux de fécondité des Françaises ?
La France affichait en 2016 le taux de fécondité le plus élevé de l'Union devant l'Irlande, la Suède, le Royaume-Uni et le Danemark. Impossible de vous répondre pour 2017 car l'INSEE est le seul institut statistique d'Europe à publier dès janvier des données démographiques sur l'année précédente. En prenant les deux ou trois dernières années, on observe une baisse dans les pays dont le taux de fécondité dépasse les 1,80. L'Irlande, la Suède, le Royaume-Uni. Et la situation de pays à faible natalité comme l'Italie, 1,34 de taux de fécondité, continue de se dégrader. En revanche, des pays dont la natalité était tombée très bas ont tendance à amorcer une remontée. Il en est ainsi de l'Espagne, de la Pologne, de la Hongrie, dont les taux de fertilité varient de 1,34 à 1,45. Et puis, nouvelle importante, le redressement de la natalité allemande se confirme.
Dans quelle proportion, Daniel ?
C'est assez net depuis 20 ans. On est passé outre-Rhin d'un taux de fécondité de 1,25 en 1995, ce qui est absolument désastreux, à 1,34 en 2005, 1,42 en 2013 et 1,50 en 2015. On ne dispose pas encore des chiffres pour 2016, mais la progression du taux devrait se poursuivre puisque 55 000 naissances supplémentaires ont été enregistrées cette année-là en Allemagne.
Comment peut-on expliquer ce redressement ?
Il faut évidemment signaler l'accent mis depuis 10 ans par Angela Merkel sur les mesures natalistes. 56 milliards d'euros étant désormais consacrés chaque année à la politique familiale, que ce soit sous forme d'allocation ou de maintien de salaire pendant le congé parental. Cela dit, dans tous les pays, les spécialistes considèrent que les politiques natalistes ne jouent qu'après des décennies de mise en œuvre et leur effet reste assez marginal. En réalité, l'Allemagne profite surtout depuis quelques années de l'afflux de migrants dont les femmes ont une fécondité supérieure à celle des populations d'origine. Autre facteur, le fait que les femmes de 25-40 ans, l'âge plein de la maternité, sont plus nombreuses en Allemagne. C'est justement le contraire en France, où cette classe d'âge est actuellement en diminution, ce qui explique la baisse du taux de fécondité.
Alors vous parliez d'un début de redressement à l'est de l'Europe, mais quid des pays méditerranéens ?
La situation de l'Italie est très grave. En dépit de mesures natalistes adoptées en 2014, le solde naissance-décès y est négatif de 560 000 personnes depuis 2012. Ça va mieux en Espagne, même si entre 2012 et 2015, le pays a perdu 400 000 habitants du fait d'une émigration massive. Le phénomène s'est interrompu et la population espagnole recommence à croître, contrairement à celle de l'Italie.
Et quels sont les pays dont la population progresse le plus ?
On ignore souvent, malgré sa natalité encore très médiocre, l'Allemagne est le champion de l'accroissement de la population avec une hausse de 2,3 millions d'habitants depuis 2012. 3,3 millions d'immigrés sont arrivés dans le pays. La France est une sorte d'exemple inverse, un accroissement naturel de 1,1 million de personnes, mais seulement 450 000 immigrés supplémentaires. Quant aux pays dont la population totale a diminué en 5 ans, signalons la Pologne, 560 000 habitants de moins, et la Grèce qui perd 300 000 habitants sur un total de 10 millions d'habitants.
Finalement, on peut dire, Daniel, que l'Europe compense sa natalité médiocre par l'immigration.
Tout à fait, Catherine. Et d'autant plus, on le voit en Allemagne, que les immigrants d'aujourd'hui font les enfants de demain. À cet égard, il est évident que la France, si elle veut retrouver le chemin d'une croissance durable, devrait davantage compenser le ralentissement de sa natalité par l'immigration.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. À bientôt, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur rfi.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans quelques instants, le journal.